c'est la première fois depuis 2 mois maintenant qu'on allait voir des réfugiés de l'usine Azovstal à Mariupol.
Une petite fille qui nous disait qu'elle avait envie de rire. Alors on lui dit « Mais pourquoi ?» Elle nous dit « Mais ça y est, je suis libre !»
Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Anne-Sophie Varmont et Stéphane Beaujard. Ils ont attendu des jours, des nuits, les réfugiés de Mariupol, ceux cachés dans cette usine assiégée par les Russes. Après plusieurs journées de route et des dizaines de contrôles, les bus conduisant les réfugiés arrivent enfin à Zaporijjia. C'était mardi, on vous raconte. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Anne-Sophie, salut Stéphane.
Salut Yves.
Salut Yves.
Où êtes-vous en ce moment ?
Eh bien en ce moment on est à Zaporijjia, toujours donc dans le sud-est de l'Ukraine, devant un centre d'accueil pour réfugiés.
C'était ça l'actualité cette semaine à Zaporijjia, c'était ce fameux convoi qui devait partir de Mariupol et arriver à Zaporijjia. Vous y êtes depuis une semaine et vous avez attendu quasiment toute la semaine ce convoi.
Oui tout à fait, ça a mis beaucoup de temps à arriver. Dès le samedi soir, on avait l'information comme quoi il devait peut-être être évacué, mais après il y a énormément en fait de contraintes sur le terrain, ce qui fait que cette attente elle a été prolongée pendant plusieurs jours et finalement ils sont arrivés mardi.
Là en ce moment vous êtes dans un centre, il y a quoi autour de vous, ça ressemble à quoi ?
En fait, il faut s'imaginer une sorte de grand hall de salle qui doit accueillir, je pense, peut-être des spectacles ou des compétitions sportives, avec devant une foule de personnes qui font la queue. Et puis à l'intérieur, il y a différents endroits. Il y a un endroit pour récupérer de la nourriture, un endroit avec énormément de vêtements pour se vêtir, que ce soit à la fois pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Et puis il y a également un endroit où ils peuvent parler avec une psychologue et un coin un peu adapté pour les enfants où ils peuvent jouer et parler aussi avec des psychologues et expliquer, dire ce qu'ils ont sur le cœur, comment eux aussi ils vivent la guerre.
Il y a du monde là en ce moment ?
Ah, il y a énormément de monde devant le centre, surtout qu'en fait, ce que nous expliquait la responsable du centre, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu en fait une livraison de produits d'hygiène, que ce n'est pas tous les jours, et c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de monde aussi, c'est que les gens ils sont en demande de ce type de produits, parce que ce qu'ils nous expliquent aussi, c'est que sans l'aide de ces associations, de ces centres, en fait, ils n'ont plus rien pour vivre, ces gens-là. Ils ne travaillent plus, ils n'ont plus de logement, donc en fait, c'est vraiment leur seule source pour avoir des produits de première nécessité.
Pourquoi est-ce qu'il était si important ce convoi ? Pourquoi est-ce qu'il fallait être devant ces bus à son arrivée ?
Parce que c'est la première fois depuis 2 mois maintenant qu'on allait voir des personnes qui sont des personnes réfugiées de l'usine Azovstal à Mariupol. Azovstal, c'est donc la petite poche encore tenue par l'armée ukrainienne, mais où des civils se sont réfugiés dans les souterrains de cet immense complexe sidérurgique. Et donc ces personnes, elles n'ont pas vu la lumière du jour depuis 2 mois. On avait pu voir des vidéos qui avaient filtré les derniers jours où on les voyait. Ils racontaient qu'ils étaient extrêmement fatigués, qu'il commençait à être difficile de se nourrir. On pouvait deviner que leur visage était très pâle. Et donc là, ces personnes allaient nous raconter ce qu'elles ont vécu pendant 2 mois, réfugiées dans des souterrains, dans une ville assiégée par les Russes.
Il faut se rendre compte, sur Azovstal, on a quand même très très peu d'informations, on récupère beaucoup d'images par divers canaux, mais cette volonté de récupérer leurs premières paroles et surtout de savoir, mais quelle est cette vie dans une usine assiégée avec un bruit des bombardements constants, c'est quand même si c'est un pays en guerre, c'est vraiment très différent d'une zone à une autre. Et là, on est dans une zone qui très spécifiquement est touchée par la guerre et par l'armée russe.
Mardi, du coup, il ressemblait à quoi ce centre ? J'imagine que les humanitaires étaient en train de s'organiser, que les journalistes aussi devaient en avoir beaucoup.
Il y avait énormément de journalistes au niveau des humanitaires. En fait, eux, c'est leur quotidien parce qu'il y a toujours un flux de voitures, c'est-à-dire que le parking n'est pas vide. Ils n'attendaient pas que le convoi d'Azovstal. Il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui arrivent d'autres villes aux alentours et qu'en fait, les humanitaires, les associations, elles sont là pour les accueillir et qu'en fait, eux, ils ils ont du travail en continu. D'ailleurs, nous, quand on faisait nos directs sur place, il y avait toujours des gens derrière nous, ce n'était jamais vide. Après, comme disait Stéphane, là, on a vu une différence, c'est que le mardi matin, on a vu des officiels. On a vu Médecins Sans Frontières, on a vu l'ONU. Surtout, ils sont venus nous parler, ils ont commencé à nous dire, voilà, ça va être pour aujourd'hui. Alors que les autres jours, à chaque fois que l'on posait des questions, en fait, c'était toujours, on n'a pas d'informations à vous donner, on ne sait pas, ça peut être très long. Et on a vraiment senti cette bascule mardi, où là, ils ont vraiment commencé à gérer les journalistes qui étaient extrêmement nombreux, parce que plus le temps passe, plus on sent que l'on s'approche du moment de l'arrivée. Donc forcément, les médias du monde entier étaient extrêmement nombreux sur place. Et là, on s'est dit, bon, clairement, ça va être pour aujourd'hui. Mais on n'avait pas encore l'heure et on a eu, pareil, des heures différentes annoncées tout au long de la journée.
Vous aviez des informations en particulier sur ce qu'on voit, vous arriviez à le suivre petit à petit, ou vous étiez comme les organismes à attendre et sans savoir trop où il était?
Nous, on pense que les organismes, ils avaient des informations, mais qu'ils ne pouvaient pas nous donner, parce qu'en fait, tout simplement, c'est des questions de sécurité. Et en fait, on se renseigne beaucoup via le canal Telegram, qui le canal qui est beaucoup utilisé en Ukraine, où en fait, on peut suivre des chaînes. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'on arrivait à avoir les premières images du convoi, parce que, par exemple, une agence russe de médias, elle a diffusé les premières images du convoi et les premières interviews, et c'est comme ça aussi qu'on a essayé de localiser petit à petit le convoi, parce qu'en fait, en territoire occupé, il n'y avait que les Russes qui avaient ces informations. Et nous, c'est comme ça qu'on arrivait à se tenir au courant. Après, il y avait aussi, je pense que Stéphane pourra le confirmer, beaucoup de rumeurs qui circulaient sur le parking entre les journalistes et qui se sont pas du tout vérifiées.
Ouais, et c'est ça aussi le plus compliqué un petit peu à gérer, c'est qu'il faut imaginer un peu plus d'une centaine de journalistes qui attendent tous la même chose et personne vraiment ne veut le louper. Et tout le monde pense avoir plus ou moins la bonne info. Et donc, entre dimanche et quand on a commencé à être sur le parking, dimanche 8h du matin et mardi 16h30, quand le convoi est arrivé, on a dû nous dire deux ou trois fois « c'est bon, c'est pour aujourd'hui, c'est bon, ils arrivent dans 4h », alors que finalement, le convoi il est arrivé deux jours après.
Justement, qu'est-ce qu'on se dit entre journalistes à ce moment-là, s'il y a une centaine de journalistes, on doit s'échanger des informations?
Ouais, on essaye de s'échanger des informations. Après, comme on recherche pas aussi tous la même chose, enfin, on attend tous l'arrivée, mais je veux dire, les médias viennent vraiment du monde entier, donc chacun a aussi son canal d'information, donc faut essayer de le vérifier, même si c'est un confrère journaliste qui nous le dit. On se demande toujours pourquoi lui il dit ça alors que les autres ne disent pas la même chose. Voilà, faut toujours se donner les informations tout en se disant bon, on va pas non plus lui faire une confiance aveugle.
Finalement, je pense qu'on était globalement tous au même niveau d'information, c'est-à-dire pas grand-chose, et qu'on se renseignait beaucoup sur les chaînes de Telegram. Et d'ailleurs, la difficulté qu'on avait le soir, nous, c'est qu'on se demandait à chaque fois s'il fallait qu'on dorme sur place. Parce qu'en théorie, on se disait, ça nous semble compliqué que ça arrive en pleine nuit. Mais Stéphane, qui était déjà venu sur place, avait eu le cas d'un convoi qui est arrivé plus tard après le couvre-feu. Donc en fait, le soir, on se posait à chaque fois cette question de se dire « qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dort sur place ? Où est-ce qu'on s'en va ? Au risque de les louper ? Mais si on dort sur place, c'est-à-dire qu'on est fatigué et que s'ils arrivent le lendemain, forcément, la journée va être très très compliquée pour nous. »
Et puis surtout, il y a aussi, on peut dire, je pense qu'il y a un peu de bluff entre journalistes. Hein. C'est normal, hein, c'est le jeu. On va se renseigner auprès des autres en laissant penser qu'on a une information pour voir s'ils ont la même ou alors pour essayer d'en savoir un peu plus.
Là, quand on est mardi, que vous voyez les bus arriver, c'est quoi l'ambiance? Dans quel état d'esprit sont les réfugiés qui arrivent?
On se dit, ça y est, il est là, on va pouvoir les voir, on va pouvoir vite se rendre compte de quel état dans lequel ils sont, est-ce qu'ils ont envie d'éviter les médias ou au contraire, est-ce qu'ils ont besoin de parler? Et là, tout de suite, on a compris qu'ils avaient envie de raconter ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient vécu pendant deux mois.
Alors après, quand même, il y a eu une petite surprise. On a dû courir parce qu'en fait, il y a deux entrées à Épicentre. Donc une entrée officielle qui était celle par laquelle le convoi devait passer. Et finalement, quand le convoi est arrivé, donc nous, on était positionnés sur l'entrée principale, ils sont arrivés par l'entrée arrière. Donc quand on a vu que le convoi arrivait, il a fallu courir pour avoir cette image que tout le monde attendait parce qu'on était en direct avec notre chaîne et il fallait montrer cette image.
Pendant que vous nous parlez, Anne-Sophie, on voit ces bus qui ont fait demi-tour, comme vous nous l'avez indiqué, pour se positionner là où c'était prévu et là où tous les médias, évidemment, du monde entier les attendent, parce qu'ils sont la preuve vivante de ce qui se passe et de cet enfer à Mariupol qu'ils ont vécu pendant plusieurs semaines.
On voit ces femmes, ces enfants qui sont en train d'arriver. Là, les portes s'ouvrent.
Donc en fait, on a dû courir. Stéphane a levé la caméra pour pouvoir montrer cette image. Donc je pense, oui, qu'on était dans cette idée. Voilà, il y a un soulagement de les voir, déjà de se dire qu'ils arrivent enfin. Et aussi, le moment où on se dit, voilà, maintenant, faut pas rater la chose. Il faut le faire bien, parce que c'est aussi des gens qui sont extrêmement affaiblis. On est là pour recueillir leurs paroles, mais aussi pour leur laisser le temps et le choix de nous parler.
Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour parler à ces réfugiés qui descendent des bus et face donc à une centaine de journalistes?
Oui, alors, pour remettre un peu dans le contexte, justement, depuis le matin, l'ONU avait essayé d'organiser un petit peu les choses, nous avait appelé plusieurs fois à être disciplinés pour justement ne pas sauter sur les réfugiés, entre guillemets, ne pas les agresser à leur arrivée. Donc en fait, les bus arrivaient dans des couloirs séparés et les journalistes étaient répartis devant ces différents couloirs. Normalement, on devait rester à une certaine distance des bus. Et puis très rapidement, les gens sont sortis et on voit très vite dans les regards qu'on peut échanger avec eux, parce qu'ils nous regardent évidemment. Dès qu'on est arrivé, moi ce qui m'a marqué, c'est que dans le bus que je filmais, les enfants faisaient coucou. Du coup, on se dit bon bah là c'est bon, on peut y aller, on peut les filmer, il y a pas de souci quoi. Et donc c'est vraiment dans les regards que ça se passe et qu'on se dit est-ce qui peuvent ou pas nous parler.
Après, la difficulté, c'est évidemment que l'on ne parle pas ukrainien. Donc, en fait, on travaille avec un fixeur qui a un rôle multiple de traducteur, d'aide aussi à la compréhension du pays. Donc, en fait, c'est lui qui les aborde pour nous. Donc, nous, des fois, on lui dit, voilà, on voudrait parler à telle ou telle personne. C'est lui qui y va. Mais après, c'est aussi à son propre jugé, parce qu'il peut dire, non, cette personne-là, j'irai pas lui parler, alors que celle-là, j'irai lui parler. Et nous, on essaie toujours de capter le regard des gens et de leur faire comprendre, voilà, qu'on a envie de leur parler, mais par nos yeux, parce qu'évidemment, malheureusement, on ne peut pas discuter avec eux en ukrainien, et ça, c'est une difficulté supplémentaire, parce que forcément, bah, c'est à notre fixeur d'y mettre les formes, et tout passe par de la traduction.
Quelles sont les premières questions qu'on pose ?
Comment allez-vous ? C'est ça, la première ces questions, c'est comment allez-vous ? Comment vous vous sentez ? Ensuite, c'est quelle était la vie sur place ? On leur demande aussi de recontextualiser depuis combien de temps ils y étaient, comment ils mangeaient, comment ils dormaient, est-ce qu'ils entendaient les bombardements. Et aussi, on leur demande, et voilà, outre comment ils se sentent, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite pour eux et comment ils l'envisagent ?
Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'ils ont vécu dans cette usine ?
Moi déjà, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils ont vraiment parlé assez librement. En tout cas, toutes les personnes qu'on a vues, c'était assez spontané. Et donc, toutes nous ont dit que c'était compliqué au niveau de la nourriture, qu'il fallait se rationner, qu'ils avaient une boîte de conserve pour à partager entre plusieurs personnes, entre 4, 6, 8 personnes, ou alors qu'ils essayaient de préparer de la nourriture, de faire des soupes pour ensuite, après, pouvoir se répartir la nourriture.
Les militaires nous aidaient. Ils nous amenaient à manger, parce que s'ils ne nous amenaient pas à manger, on n'aurait plus été vivants. On mangeait des flocons d'avoine avec des feuilles qu'on trouvait qui poussaient, des mauvaises herbes.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est plus des petits détails. En fait, je pense à une dame qui est descendue et qui a dit « J'ai 25 ans, une page de ma vie vient de se tourner, je n'étais pas prête et je suis obligée de la tourner et maintenant de recommencer un nouveau chapitre de ma vie. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappée, parce que je me suis dit, bah oui, à 25 ans, en fait, il y a toute une période de sa vie qui vient de se terminer, et je me disais que, en fait, c'était aussi la preuve de la violence de cette guerre. Et aussi, je pense à une petite fille qui nous disait qu'elle avait envie de rire. Alors on lui dit, mais pourquoi ? Elle nous expliquait qu'elle voulait être peintre, qu'elle avait laissé ses dessins à Mariupol et que là, elle voulait rire. On lui dit, mais pourquoi tu veux rire alors que c'est quand même, voilà, un moment difficile. Elle nous dit, mais ça y est, je suis libre. Et vraiment, c'est ce soulagement. Et d'ailleurs, on le voyait bien, les gens qui nous parlaient, ils étaient extrêmement soulagés, et le fait de parler, on sentait que ça leur faisait énormément de bien, et quand dans les jours suivants, on les a recroisés, finalement, ce sont les mêmes personnes qui sont venues vers nous et avec qui on a pu vraiment créer un lien, un dialogue sur plusieurs jours pour savoir comment se passait justement la transition entre Azovstal et cette nouvelle vie à Zaporijjia.
Et puis en parlant avec eux, il y a eu plusieurs témoignages concordants et on a découvert quelque chose, enfin, qui est revenu vraiment avec insistance. C'est qu'en sortant de l'usine, ils sont passés par un camp, on peut appeler un camp de filtration, dans une ville de la banlieue de Mariupol, Bezimen. Et là, il y a un homme notamment qui nous a raconté qu'il y avait une femme qui est sortie avec eux de l'usine. Et dans ses affaires, les Russes ont retrouvé des papiers qui faisaient état de sa fonction de policière. Et là, cette personne a été mise de côté et elle n'est pas arrivée à Zaporijjia. Ils n'avaient pas de nouvelles de cette personne. Ils ne savaient pas ce qu'elle était devenue. Et on s'est rendu compte aussi au fil des témoignages qu'il y avait ces camps de filtration avec des personnes dont on n'a plus de nouvelles une fois qu'elles sont passées par ces camps.
Pourquoi ce que vous voyez en ce moment à Zaporijjia, c'est un moment important de la guerre, ces réfugiés qui quittent Mariupol ?
Mariupol, ça devient une ville symbole un petit peu de cette guerre. On dit beaucoup que la Russie souhaite contrôler totalement Mariupol. C'est une vraie volonté. Aujourd'hui, c'est vraiment 90-95% de la ville qui sont contrôlés par les Russes. Il reste juste ce site d'Azovstal. Et donc, ces personnes ont vécu 2 mois sous l'occupant russe et ont tout quitté, parfois même vraiment du jour au lendemain. Je me rappelle d'une vieille dame qui nous racontait qu'elle allait tous les jours se réfugier à Azovstal parce que ça bombardait beaucoup. Et le soir, elle rentrait chez elle. Et en fait, un soir, elle a pas pu rentrer chez elle et elle est ressortie d'Azovstal 2 mois après. Et on l'a retrouvée à Zaporijjia. Donc c'est vraiment en fait un marqueur de cette guerre aussi, avec toutes ces personnes qui doivent quitter leur quotidien, qui doivent quitter leur ville et ce sud et l'est de l'Ukraine qui aujourd'hui sont en majorité contrôlés par les Russes.
Quelle est la suite de votre programme ? Là, vous allez rester à Zaporijjia combien de temps encore ?
Alors, on va rester certainement encore quelques jours à Zaporijjia. Alors après, demain, on va peut-être se déplacer ailleurs pour se rapprocher de la ligne de front côté est. En fait, là, on se dit que le convoi devrait mettre peut-être plusieurs jours à cause toujours de ces camps de filtration, de ces checkpoints, le nouveau convoi d'Azovstal, ce qui nous laisse un petit peu de temps avant de l'accueillir à Zaporijjia. Et ensuite, évidemment, normalement, on sera là pour l'accueillir et pour recueillir à nouveau les paroles de ces nouveaux survivants d'Azovstal qui sont attendus à Zaporijjia.
Et puis l'idée, c'est d'être présent le 9 mai, date très importante en Russie. Donc voilà, d'être présent ici pour aussi voir s'il va se passer quelque chose et si le bus sera arrivé d'ici là ou non.
D'ailleurs, preuve du fait que le 9 mai, c'est une date particulière, à Zaporijjia, ils ont mis un couvre-feu sur la journée entière. Il faut savoir que normalement, le couvre-feu ici, il est à 21h. Et là, ils ont décrété un couvre-feu qui va courir de dimanche soir jusqu'au mardi matin. Parce qu'en fait, ils ont peur que cette date symbolique, ça devienne aussi peut-être à un moment où il y aura plus d'attaques. Donc, il va y avoir un couvre-feu sur la journée entière à Zaporijjia.
Bon courage à vous. Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un nouveau podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouveaux épisodes arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.